Patrimoine et Finances, une émission animée par Frédéric Primeau, banquier du patrimoine et de l'entreprise, chef de marché profession libérale pour le groupe Société Générale.
Chers amis, chers auditeurs, je suis ravi de vous retrouver à l'occasion de cette rentrée pour une nouvelle chronique Patrimoine et Finances. Après vous avoir parlé récemment de l'intérêt ou pas d'acheter sa résidence secondaire, dans ce nouvel épisode, j'ai l'ambition de vous raconter comment tirer des revenus de sa résidence principale sans la vendre. Les Français n'ont jamais autant investi dans la pierre, ou ça vous le savez, hein, c'est pas une révélation aujourd'hui. Pour beaucoup, la résidence principale représente l'essentiel d'une vie de travail, d'épargne et de sacrifice, et un capital à transmettre à ses enfants. Mais voilà le paradoxe, on peut être propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de plusieurs centaines de milliers d'euros et manquer de liquidités pour financer des travaux, aider ses enfants ou simplement améliorer son quotidien. En clair, nous sommes bien dotés en patrimoine, mais en manque de trésorerie. D'où la question du jour, comment tirer des revenus de son logement sans être obligé de le vendre. Plusieurs solutions existent, et certaines restent étonnamment méconnues. Je n'ai pas l'intention de vous parler directement de viager, ça c'est clair, car cette technique consiste tout de même à vendre son logement. La première possibilité est de louer une partie ou la totalité de son habitation. Une chambre occupée par un étudiant, une colocation classique ou intergénérationnelle, ou encore une location saisonnière lorsqu'on s'absente quelques semaines dans l'année. Pour de nombreux retraités ou de travailleurs nomades, cette solution permet de dégager des revenus mensuels ou d'amortir les frais incompressibles du logement, tout en conservant la pleine propriété de leurs biens. Une autre piste consiste à valoriser ce qui dort parfois inutilement. La valorisation peut se faire par l'allocation à un tiers ou même la vente. Je m'explique. Cela concerne tant un logement dans un ensemble collectif que dans une maison individuelle. Par exemple, une place de parking, un garage, une dépendance, un espace de stockage, une cave, voire l'installation de panneaux photovoltaïques sur le toit. Certaines familles perçoivent ainsi des revenus réguliers sans modifier profondément leur mode de vie et tout en conservant l'essentiel, c'est-à-dire la résidence principale. Nous vivons aujourd'hui dans une société où l'héritage arrive de plus en plus tard. Et je suis tenté de dire tant mieux. Au moment où les enfants héritent, ils ont souvent déjà acheté leur logement, construit leur carrière ou créé leur entreprise et élevé leurs propres enfants. Autrement dit, l'argent arrive parfois, mais quand il est moins utile. Mais lorsque le besoin financier est plus significatif, plus immédiat, il existe des mécanismes beaucoup moins connus. Parmi eux, le prêt viager hypothécaire. Le nom peut sembler un peu technique, pourtant le principe est globalement simple. Une banque prête de l'argent en prenant une hypothèque sur le logement, le propriétaire continue d'habiter chez lui et ne rembourse rien de son vivant. Le crédit est soldé plus tard, lors de la vente du bien ou au moment de la succession. Contrairement au crédit immobilier classique, l'âge n'est plus un obstacle, il devient même un avantage. Ainsi, un propriétaire de plus de 70 ans peut obtenir plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire davantage, selon la valeur de son logement. Il faut constater qu'il existe peu d'acteurs bancaires traditionnels sur le territoire français qui réalisent ce type de financement. Les établissements traditionnels préfèrent le crédit hypothécaire plus classique. Cette solution peut servir à financer l'adaptation du domicile en cas de perte d'autonomie, à rembourser des dettes ou encore à aider ses enfants. Et là, c'est un sujet majeur. Les patrimoines plus importants disposent également d'une autre option, le crédit hypothécaire classique que toutes les banques savent accompagner, donc celui qui est non viagé. Cette fois, il s'agit d'un véritable prêt avec des mensualités. Le bien immobilier sert de garantie mais reste la propriété de l'emprunteur. Cette solution est souvent utilisée par des propriétaires qui souhaitent investir, transmettre un capital à leurs enfants ou préserver d'autres placements financiers. Bien évidemment, la banque fera correctement son métier en calculant la solvabilité de l'emprunteur et exercera son devoir de conseil en lui proposant une assurance emprunteur. Enfin, une approche plus récente apparaît sur le marché que j'ai découvert d'ailleurs en préparant cette chronique. Certaines sociétés, j'ai cité un nom par exemple, Merci Prosper, où des family office proposent d'acheter seulement une fraction de votre logement. Le propriétaire reçoit immédiatement des liquidités, tout en conservant une partie de la propriété et l'usage du bien. Pas de dette, pas de remboursement mensuel, mais un partage futur de la valeur du logement. Cela est assez différent du viager qui implique le démembrement. Alors, quelle est la meilleure solution ? Comme souvent en matière de patrimoine, il n'existe pas de réponse universelle ou unique. Tout dépend de l'âge, de la valeur de son logement, de ses revenus, de son projet, de sa volonté de transmettre. Un bien immobilier ne doit pas être seulement un patrimoine que l'on regarde prendre de la valeur, ou pas, au fil des années. Ce bien immobilier peut aussi devenir un outil au service de projets, de la solidarité familiale et du bien vieillir. Chers auditeurs et chers investisseurs, je vous remercie de votre fidélité et j'espère vous avoir éclairé. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos antennes, en podcast, ainsi que sur les réseaux sociaux. À bientôt et prenez soin de vous.
Patrimoine et finances, une émission animée par Frédéric Primo, banquier du patrimoine et de l'entreprise, chef de marché profession libérale pour le groupe Société Générale.